Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno Duhic.
L'actualité avance au bras de l'histoire aujourd'hui, elle continue leur marche avec vous Jean.
Vous connaissez le projet pour y avoir été associé, dont nous allons vous conter les prolongements. C'était le 13 avril que nous avons fait entendre de longs témoignages en votre compagnie de victimes de proches.
Chaque témoin compte.
13 novembre. Alors je redis le titre, vous avez raison. Après le 13 novembre, chaque témoin compte.
J'étais de garde et à 21h30, j'ai reçu un coup de téléphone du médecin de la salle de réveil qui accueille les polytraumatisés, qui avait été prévenu par le SAMU de Paris qu'il se passait plusieurs explosions autour du Stade de France et des coups de feu dans Paris, mais on n'en savait pas plus. Et donc on s'attendait à recevoir des victimes.
Christian Delage, bonjour.
Oui, bonjour Jean Lebrun.
Vous êtes le directeur de l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Cette journée du 13 avril à France Inter, 6 mois après la nuit funeste du 13 novembre, vous étiez là pour la présenter en compagnie d'Antoine Lefébure. Vous animez une équipe dans laquelle on compte 4 doctorants et chaque participant comptant, 3 chercheurs, sans vous compter, vous, qui sont...
Oui, donc on a autour de nous Cédric Moreau de Bellin, qui est spécialiste de la police, Elisabeth Claveret, qui est une anthropologue, et Judith Lindenmer, qui a pas mal travaillé sur le témoignage littéraire.
À la suite de cette journée D, le 14 avril, des auditeurs nombreux de France Inter se sont manifestés qui étaient désireux de parler. Ça me rappelle un beau titre d'une émission antique, animée par des anciens de la France Libre, sur France Inter dans les années 50, « Soyez témoins ».
Oui, pour nous, c'était vraiment, non seulement cette journée évidemment était importante parce qu'elle a vraiment valorisé notre travail, mais elle a aussi permis à un certain nombre de gens de nous écrire. Et cette démarche nous plaît parce que c'est mieux que ça vienne, que l'initiative vienne d'eux.
Alors pas d'appel à des associations pour trouver les témoins, pas non plus de dispositifs d'enregistrement stéréotypés avec des questionnaires. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas de méthode.
Oui, j'espère. Bien sûr, on a une méthode, mais cette méthode, elle est très souple. Et surtout, ce qu'on fait, nous, c'est vraiment chaque aventure est personnelle, chaque témoin a un décor particulier, une temporalité particulière. On parle avec lui avant, on le suit ensuite après, et on a une correspondance avec deux d'entre eux qui est très suivie.
Vous n'avez pas non plus d'intention idéologique du genre, comment montrer que le cerveau fabrique les souvenirs d'événements traumatisants d'une certaine façon, les souvenirs s'y logeant dans un certain endroit du cerveau. Alors vous questionnez, interrogez, enregistrez longuement des proches du 13 novembre, avec des cercles différents. Alors, on ne va pas entendre aujourd'hui de blessés survivants. Ils peuvent enregistrer avec vous, ils n'ont pas nécessairement envie de passer sur les antennes.
Oui, c'est-à-dire que c'est déjà difficile pour eux de parler, de structurer leur récit. Et pour certains, quand on leur fait écouter après, ça leur donne un sentiment un peu particulier. Et tout à coup d'être face à leur propre témoignage et par rapport à leurs proches. Donc il y a, pour certains d'entre eux, pour l'instant j'espère, le souhait de rester dans une certaine intimité.
Premier de nos 3 témoins de ce jour, un médecin urgentiste qui se trouvait être responsable de la salle de réveil de la Pitié Salpêtrière ce soir-là. C'est un homme très modeste, une trentaine d'années, l'âge des victimes, c'est le docteur David Pariente.
Donc je me suis mis à l'entrée là où il y a les camions, et je voyais arriver les gens, je disais c'est pour les urgences, c'est pour la salle de réveil, et en leur indiquant comment faire pour y aller. À l'intérieur des urgences, en fait, on a divisé le service en deux, parce que le service est constitué de deux côtés qui se font face, hein, mais qui d'habitude fonctionnent indistinctement l'un de l'autre. Sauf que là, on a une porte qui fait entrer les gens par le tri de l'infirmière, et ensuite, ils sont vus dans les box. Et puis, il y a une porte qui sert à l'accueil des patients amenés par le SAMU en salle de déchocage. On a fait entrer les patients attentats par la porte de déchocage, à partir du moment où je disais qu'ils étaient pour les urgences. Une fois dans la salle de déchocage, une réévaluation rapide de la gravité, savoir est-ce que c'était uniquement un problème orthopédique de lésion des membres ou est-ce que c'était le tronc, l'abdomen, enfin, et la tête, c'était souvent en bas. Ensuite, s'ils pouvaient entrer sans s'arrêter justement par les chocages, on les mettait directement dans un box et on faisait leur accueil identité constante, la tension, la fréquence cardiaque, la saturation, etc. On n'a pas eu de problème d'identité parce que tous nos patients parlaient.
Ils parlaient.
Il y a eu des gros problèmes d'identité en salle de réveil parce que quasiment aucun ne parlait. Et du coup, ça a été le plus gros problème qu'on a eu à revoir par la suite, c'était les identités. Mais il a fallu un peu plus de 24 heures pour être sûr que qui était qui. Et voilà, c'est le plus gros problème qu'il y a eu pour les familles quoi, qui cherchaient leurs proches. L'accueil des familles a été très dur parce que par un choix de sécurité et de prise en charge optimale des patients, d'habitude, nous laissons un accompagnant entrer avec chaque patient aux urgences. Là, par contre, on a mis tout le monde dehors. Il n'y avait que des patients dans les urgences. Et du coup, les familles ou les proches qui étaient sur place au moment des attentats, mais qui n'étaient pas touchés, arrivaient à l'accueil, touchés physiquement, arrivaient à l'accueil en demandant soit s'ils savaient que leur proche était effectivement là, comment il va, soit en cherchant leurs proches, soit en voyant que l'état était dramatique de leurs proches, en le voyant passer vers la salle de réveil. On avait une psychiatre de garde et une infirmière de psychiatrie qui étaient là de toute façon, qui sont là pour les problèmes psychiatriques, qui sont occupés de ça, qui s'en sont... Enfin, ils n'étaient que deux et s'en sont vraiment, à mon sens, très bien occupés. Mais ça a été... Je ne peux pas vous dire comment c'était en détail parce que moi, j'étais occupé. Donc, mais je n'ai jamais entendu autant de calme alors qu'il y avait autant de gens dans les urgences. Je ne parle pas des soignants. Je parle des victimes. C'était... on n'a absolument rien fait. Alors si, on a bombardé tout le monde d'antibiotiques et de morphine. Donc, effectivement, ils avaient pas mal. Enfin, moins mal. Donc ça les aidait dès qu'ils arrivaient. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de discussion sur est-ce qu'ils ont mal ou pas. Mais les gens ne parlaient pas, parlaient peu ou pas entre eux, les victimes. Ils étaient sidérés, en fait. Une espèce de sidération. Et ils ne parlaient que quand ils répondaient aux questions. Donc... comme c'était pas de la médecine médicale, c'était de la traumatologie, les questions, elles étaient... Enfin, quand vous avez une plaie par balle, il n'y a pas de questions énormes à poser sur le plan médical, à part les antécédents et tout ça. Mais ça n'avait pas touché d'organes vitaux. Moi, je me souviens d'un jeune homme en fin de nuit qui... il a eu une balle qui est entrée par là, donc par l'épaule, on voyait le trajet de la balle sous la peau, et elle est sortie presque en butant contre le rachis cervical. Donc on voyait l'entrée, enfin, la sortie, l'entrée, la brûlure sous la peau de cette balle, et du coup rien n'était touché, quoi. Enfin, ni fonctionnel, ni vital. Donc lui, il fallait fermer les plaies, voilà, mais il allait ressortir des urgences quand c'était fini, quoi. C'était pas le bloc opératoire. Et lui, enfin, je me suis dit, mais... voilà, et pendant qu'on le suturait, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez des... Parce que c'est pas moi qui l'avais vu à l'entrée, mais je le suture, enfin, les rôles tournaient entre celui qui faisait le traitement, celui qui avait posé les questions et tout. Donc je faisais la suture et je lui ai dit, vous avez des problèmes de santé particuliers? Alors au début, il me dit non. Et puis, un type de 30 ans, hein, et il me dit... Ah bah si, quand j'ai eu 20 ans, j'ai eu un cancer des testicules. Donc, il a réchappé une fois du cancer. Et ensuite, il a eu cette balle miraculeuse, parce que par rapport à d'autres lésions, c'était... Mais ça aurait pu être... Je sais pas... Enfin bon, après... Tant mieux pour lui.
Quel était l'âge moyen des gens qui arrivaient?
Ils avaient entre 30 et 40 ans. On a eu beaucoup de la première moitié, c'était les patients des cafés qui avaient entre 30 et 40 ans. Et en fait, le Bataclan, ça n'a pas été très, très, très différent. Il y avait des gens un peu plus âgés, mais enfin, c'était pas... Ils avaient 50 ans, quoi. C'était pas la population habituelle des urgences, parce que même s'il peut y avoir des gens jeunes, en majorité, on a quand même, pour des problèmes médicaux, des gens âgés qui posent des problèmes multiples. Donc, faut s'en occuper sur plusieurs facettes. Mais en nombre, les gens de cet âge-là représentent peu de gens aux urgences, et c'est bien normal, parce qu'ils sont moins malades, enfin voilà. Et là, c'était que des gens qui avaient notre âge, ou juste, enfin oui, qui avaient notre âge.
Interrogé par Elisabeth Clavry, le docteur Pariente, dans le travail de collègue de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, Christian Delage, d'autres médecins, ce médecin policier qu'est le docteur Safran, dont nous avions diffusé le témoignage le 13 avril. Depuis, il a pris la peine d'aller plus loin dans sa recherche. Il publie un livre au mois de janvier, où il parle aussi de ses antécédents. Les antécédents biographiques, pas médicaux, comme ceux qu'évoquait David Pariente.
Oui, on avait interviewé Denis Safran donc, dans la première vague de témoignages qu'on a fait. Et évidemment, c'est une personnalité très forte et très charismatique. Et comme je le fais avec beaucoup des jeunes aussi qu'on interviewe, on revient sur la vie passée. Et donc, il nous avait raconté juste que il est issu d'une famille juive polonaise, que ses parents ont échappé à la Shoah, se sont réfugiés à Paris, ont attendu d'être naturalisés français, ont dû faire des démarches pour avoir des papiers, etc.
La préfecture de police, pour lui, là où il travaille aujourd'hui, ça signifie aussi un passé. Un livre qu'il faut qu'on signale, il est déjà paru, lui, nos 14 novembre chez Lattès, c'est celui d'Aurélie Sylvestre, bouleversant, et c'est un livre qui est consacré à Mathieu Giroux, qui est mort d'une balle dans la tête au Bataclan. C'est maintenant un ami et un compagnon d'études de Mathieu Giroux, grand géographe plein d'avenir, que nous allons entendre assez longuement. Sylvain Patieu avait envoyé cette lettre au journal L'Humanité peu après sa mort.
Brillant chercheur, beau comme un dieu ou un saxophoniste, et généreux en plus de ça. Il finissait ses phrases ou ses textos en t'appelant l'ami. Et ça peut sembler désuet, mais chez lui, ça sonnait sincère. Sur le terrain, quand on jouait au ballon, il était numéro 10, celui qui garde son calme, organise le jeu et passe la balle à terre. Ça lui allait bien de distribuer, c'est dans son caractère. Un mec qui apaise. Engagé dans ses cours, dans ses recherches, de la géographie critique, dans les manifs, dans les cours de soutien pour les enfants mal logés. Mais pas le genre à regarder de haut, à se vanter, toujours dans l'écoute, modeste, une douceur magnétique. Il aimait la musique, et il est tombé sous les balles des assassins au Bataclan. Ils veulent faire monter le racisme et l'intolérance, nous dresser les uns contre les autres, athées, laïcs, chrétiens, juifs, musulmans, sunnites et chiites, français et immigrés. Ils veulent des communautés hermétiques, des chocs de civilisation, des vengeances impérialistes, la guerre de tous contre tous. Ils s'en sont pris à ce qui nous réunit, à la joie, à la danse et au rire, au stade, au bar, en spectacle. Ils ont tué des Noirs, des Arabes et des Blancs, des Français et des étrangers, des prolos et des cadres sup. Avec Mathieu, hélas, ils ont bien choisi leur cible. Un mec ouvert, intelligent, solidaire avec les réfugiés, contre les inégalités. Pas de haine chez lui. Je l'ai vu la veille de ce concert. Il m'a annoncé la bonne nouvelle. Sa compagne Aurélie enceinte. Une petite sœur pour son bonhomme de 3 ans. Il m'a dit, c'est comme toi, on aura une fille après avoir eu un fils. Il était fier et tendre et plein d'amour. Sa perte est en nous pour toujours. Tendre tristesse. Et malgré tout, la joie des bons moments. Je veux garder le souvenir des derniers mots d'amour de Mathieu pour les temps mauvais qui s'annoncent.
Aurélie, dans son livre, signale que le dernier disque que tous deux aient écouté ensemble, le 13 novembre, The Immortal Blint, Raymond Jefferson.
I'm a tell you why that lemon lone hour is due. Tell you why that lemon lone hour is due.
Mathieu, au bout d'un moment, il s'est installé à Paris dans le 10e arrondissement avec sa compagne. Moi aussi, j'habitais dans le 10e à ce moment-là. Et il habitait boulevard de Strasbourg. Ce qui est intéressant, c'est que lui-même, qui était spécialiste, géographe spécialiste de la gentrification, il est venu habiter dans un quartier qui est un des symboles du Paris gentrifié. C'est-à-dire un quartier où il y a à la fois des loyers qui augmentent, des populations de classe moyenne ou de classe moyenne supérieure qui viennent habiter, et en même temps la coexistence avec un côté très, quand même encore très populaire, avec je sais que par exemple le taux de pauvreté dans le 10e arrondissement, il est supérieur à la moyenne nationale. Donc ça a l'image du quartier de un peu de bobo, et en même temps c'est un quartier beaucoup plus mixte que ce qui pourrait y paraître. Par ailleurs, Mathieu n'aime pas du tout ce terme de bobo, qui n'est pas du tout un terme de chercheur, parce que c'est devenu une invective, où c'est pas scientifique du tout comme terme, donc c'est pas un terme qui lui plaisait, mais il savait utiliser des termes bobo, youpies, hipsters, gentrifieurs, des termes qui sont passés un peu dans le sens commun. Il savait les utiliser pour essayer de voir ce qu'il y avait derrière. Et ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant chez Mathieu, c'est que la gentrification, souvent, c'est quelque chose qui est présenté, donc cet embourgeoisement des anciens quartiers populaires, c'est souvent quelque chose qui est présenté de manière très univoque. C'est-à-dire que ça peut être soit le côté c'est génial, il y a une mixité sociale, on réhabilite des quartiers anciens qui étaient abîmés, c'est vraiment super. Et dans ce cas-là, on ne voit pas tous les conflits qu'il peut y avoir, tous les conflits pour l'espace, tous les conflits sociaux, toutes les divergences et les divergences d'intérêt de classe qu'il peut y avoir. L'autre point de vue, c'est de dire ces gentrifieurs, c'est vraiment des salauds, des bobos qui viennent virer les pauvres, c'est des salauds et tout ça. Et Mathieu, lui, il n'était pas du tout dans ces deux optiques-là. Il essayait de montrer la complexité de ce phénomène-là. C'est-à-dire que ce qu'il rappelait en premier, et il a créé un article pour La vie des idées qui est daté de 10 jours avant sa mort, du 3 novembre 2015, qui est un article dans lequel il résume un petit peu tout ça. Ce qu'il expliquait, c'est que il faut pas du tout avoir une vision idyllique des phénomènes de gentrification. Il faut pas voir la mixité sociale comme quelque chose qui va de soi, comme quelque chose qui se passe de manière harmonieuse et sans aucune difficulté. Mais il faut pas non plus oublier la diversité et la complexité qu'il peut y avoir chez ceux qu'on appelle les gentrifieurs. Il faut pas avoir un plan machiavélique des pouvoirs publics pour virer les pauvres. C'est pas ça, c'est plus compliqué que ça. Et il faut voir aussi que les populations concernées, les gens des milieux populaires qui habitent ces quartiers-là, qui sont gentrifiés, ils sont pas passifs. Ils ont une action par rapport à ça, qui peut être une action de résistance. Ils peuvent faire des pétitions, ils peuvent faire des occupations, ils peuvent se battre pour garder contre la vente à des coupes, par exemple, ou des choses comme ça. Ils peuvent aussi avoir des stratégies de résistance qui sont simplement de rester là, parce que c'est un appartement qui leur appartient, qu'ils ont acheté au moment où les loyers n'étaient pas aussi élevés, parce qu'ils sont dans un logement social, ou bien parce qu'ils choisissent de privilégier le fait de vivre dans ce quartier sur leur confort. Ils préfèrent rester dans un appartement petit, mais dans un quartier qui est un quartier embourgeoisé. Ils peuvent aussi en retirer eux-mêmes des bénéfices symboliques. C'est-à-dire qu'on voit souvent les gentrifieurs qui se vantent de vivre dans un quartier populaire et mixte, etc. Mais il peut y avoir aussi des gens du milieu populaire qui sont contents de voir arriver ces gentrifieurs, parce que ça donne un cachet au quartier, ça donne un cachet à leur propre vie.
S'il est important de rappeler jusque dans le détail les travaux, par exemple, des disparus, c'est que les lieux comptent, et notamment pour un géographe, Christian Delage.
Absolument, et Mathieu Giroux est mort en quelque sorte sur le terrain sur lequel il avait porté son attention en tant que géographe, comme l'a expliqué très bien mon collègue de Paris 8, Sylvain, à l'instant. Et pour nous, c'est très important. C'est-à-dire, au fond, on détermine progressivement une sorte de géographie qui n'est pas strictement celle des terrasses et du Bataclan, mais une géographie qui recoupe, si vous voulez, les lieux qui ont été visés, les endroits où habitaient mes doctorants ou les témoins qu'on a interviewés, et d'une certaine manière, la problématique de cette gentrification.
Ils travaillaient dans un laboratoire à Marne-la-Vallée qui était une sorte d'expérimentation de la France de demain. Voici toujours rappelé par Sylvain Batthieu sa manière d'être au monde. Les chemises à carreaux, la veste de jean et puis toujours dans l'habillement une petite touche de rock'n'roll.
On se ressemblait un peu, même si on n'avait pas la même taille, même s'il y avait des différences entre nous. On avait tous les deux les cheveux un peu en pétard, on avait tous les deux un anneau à l'oreille, un anneau ici en plus, pas l'anneau qu'on met d'habitude là, mais un anneau dans le lobe supérieur de l'oreille. Donc du coup, il y a des gens qui me disaient « Ah mais c'est marrant, vous êtes pareil, vous ressemblez. » On paraissait entre guillemets un peu cool. Donc tout ça nous a rapprochés. Ce qui nous a rapprochés aussi, c'était d'avoir des centres d'intérêt communs. On était tous les deux intéressés par la politique. On discutait aussi pas mal de foot, parce qu'on était tous les deux passionnés par le foot. Moi, par l'Olympique de Marseille, et Mathieu était plutôt pour Marseille aussi, donc ça faisait un autre sujet de conversation qui détonnait un peu. Voilà. Quand j'ai rencontré Mathieu, il était blessé, parce qu'il s'était blessé en jouant au foot, il avait une béquille. Donc voilà, il y avait le côté un peu sportif, un peu engagé politiquement aussi, qui était pas forcément banal une année de concours. Donc on est devenus amis à ce moment-là. Alors Mathieu, quand il a terminé sa thèse, il habitait à Paris. Il a été recruté à Marne-la-Vallée. Et il a fait ce que font les jeunes maîtres de conférence quand ils arrivent quelque part. Il a pris des responsabilités, il s'est occupé des étudiants. C'est quelqu'un qui rechignait pas à enseigner, Mathieu. C'était un chercheur, mais c'était aussi un enseignant, parce qu'il avait envie de faire passer tout ça. Il y a eu une journée d'hommage à Marne-la-Vallée, une journée d'hommage à Mathieu. C'était très émouvant d'entendre les témoignages des étudiants qui disaient, quand on voyait arriver Mathieu, c'est un peu le gars qui avait l'air cool, qui avait des bagues au doigt et qui n'hésitait pas à venir habiller un peu rock avec ses bottes, ses bottines, son jean et puis sa gabardine un peu à la Corto Maltese. Il n'hésitait pas à fumer une clope à la pause à discuter avec ses étudiants. Mais en même temps, c'était quelqu'un de très rigoureux dans le travail, de très sérieux. Et il leur faisait comprendre la géographie en leur passant des extraits de la série The Wire, par exemple, sur écoute. Une série qui se passe à Baltimore, aux États-Unis, qui met en scène le trafic de drogue, et dans laquelle on voit les différents quartiers, la ségrégation spatiale qui peut exister. C'est quelqu'un qui était aussi très inventif d'un point de vue pédagogique. Quand les gens meurent, on a un peu tendance à toujours donner que les aspects positifs de leur vie. Ça peut sembler un peu comme ça pour Mathieu, mais c'était vraiment quelqu'un de bien, quoi. C'était quelqu'un de bien et qui était vraiment aimé par beaucoup de gens.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Après le 13 novembre, chaque témoin compte. Aurélie Sylvestre, la compagne de Mathieu Giroux, raconte dans son livre le 14 novembre comment, après la mort de son compagnon, sont venus à elle, parfois en courant, le patron où il avait du café, où il avait ses habitudes, le kiosquier, le boulanger. Troisième et dernier témoin, situation apparemment inverse avec Romain Naufle, le luthier à Ménilmontant, rue des Gâtines, et dont voici un client occasionnel, Stéphane Calmen. Comment, après le 13 novembre, des liens qui étaient peut-être faibles sont devenus des liens forts?
Il y a un bonheur particulier, à ce moment-là, quand j'arrive, il y a 4-5 ans, c'est d'être devant la boutique du luthier qui met des bouts de bois. Et qui ces bouts de bois vont être transformés en guitare. Et ça, moi je suis guitariste, amateur, mais je suis guitariste. Et ça, évidemment, c'est doué de poésie. Enfin, je vois, c'est marrant, c'est de l'érable, c'est du patchouc, je crois. Il m'a raconté ça plus tard, qui deviendra des bouts de guitare. Et ce dont je m'aperçois, c'est que je suis pas tout seul à être touché par ça. C'est qu'il y a d'autres gens qui voient ce gars qui travaille. Non seulement les bouts de bois, ils sont là, ils sont ici. Mais en plus, le gars, il est là avec ses gouges, il est là avec ses outils, son tournevis, il met les clés d'accordage, et on le voit vraiment bosser. On a perdu, on ne voit plus les artisans travailler. Un jour, j'étais pour la énième fois avec mon gamin qui avait 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, 4-5 ans, à ce moment-là, et qui s'agrippait à mon manche de guitare, qui est donc posé, comme on le fait, sur un support. Mais c'est fragile, c'est pas une rampe d'escalier, quoi. Et le gosse, il prenait cette guitare un peu pour une rampe d'escalier. Et je me suis dit, finalement, plutôt que de lui dire « touche pas la guitare », alors qu'au contraire, je voulais plutôt l'encourager à faire de la musique, je me suis dit, offrons-lui une guitare. Et donc, j'ai juste traversé la rue, je suis allé voir Romain Naufle, je connaissais pas son nom à ce moment-là. Et Romain était assez étonnant pour quelqu'un qui vendait des guitares et qui en fabriquait. Il m'a dit, j'ai une guitare ici pour vous, mais c'est celle-là qu'il faut acheter. C'est une guitare qui est faite, je ne sais pas où, mais qui est faite dans des ateliers ailleurs. Si je vous la fais moi, elle va être beaucoup trop chère. Et les gamins, quand ils ont 5-6 ans, ils changent trop vite d'idée. Donc il ne faut surtout pas prendre une guitare, ça va vous coûter trop cher. Encouragez-le à faire de la musique, revenez me voir quand il sera plus grand, et là, je vous ferai une guitare pour lui. Quand cette devanture a été transformée en chapelle ardente et que les gens venaient mettre des petits mots, les gamins, beaucoup de gamins venaient mettre des petits mots, et puis des fleurs, évidemment, des petits drapeaux français, des photos, pas mal de photos de Romain. Puis c'est là où un matin, je trouve une dame Et cette dame, elle me dit, elle est bien habillée en beau manteau, et elle me dit, moi aussi, j'aimais bien le voir travailler. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est pas qu'elle aimait le voir travailler, c'est qu'elle me dise, moi aussi. On est un. Et cette dame, pour moi, elle l'a symbolisé par ce moi aussi. Mais en tout cas, à ce moment-là, on a été unis, comme les autres, comme les gamins qui étaient là, qui mettaient... Et puis comme les parents. Les parents qui devaient expliquer aux gosses, pour la énième fois, comme j'ai dû l'expliquer à mes gamins, pour la énième fois, je suis venu ici avec un de mes gosses qui connaissait le luthier, qui connaissait Romain. Et voilà, cette dame, elle a mis plein de sens à ce qui se passait et à ce qu'on ressentait tous, je crois.
Une question, Christian Delage. Quand on a monté la première vague de témoignages le 13 avril en votre compagnie et celle d'Antoine Lefébure, mon vieux réalisateur, Jacques Sigal, c'est un briscard, hein, et moi on chialait. Et quand on lit le livre d'Aurélie Sylvestre sur son compagnon Mathieu Giroux, je chiale. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ?
D'abord, je peux vous dire que c'est la même chose pour moi et pour tous ceux qui participent à cela. On en a beaucoup parlé avec Elisabeth. On a des mécanismes de défense, mais au fond, ces gens sont tellement nos prochains, tellement des gens qu'on aurait pu connaître, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on se sent tout à coup une sorte de solidarité qui représente bien, je crois, ce vivre ensemble, si vous voulez, qui existe quand même à Paris et dans d'autres grandes villes et en France, et qui est précieux.
Et puis, on entendait cette dame évoquée par Stéphane Calmen. On a été unis, parce qu'il s'agit de la France quand même. Aurélie Sylvestre raconte que quand on lui a rapporté les effets de Mathieu Giroux, dans ces effets, il y avait une carte d'électeur et la carte d'électeur était tachée de sang. Il s'agit de la France.
Oui, absolument. Et je crois que nous, ce qui nous a intéressé, c'est que justement, on l'apprend par le bas, si je puis dire, ou par l'ordinaire, par le quotidien, et non pas par des trajectoires qui seraient si exceptionnelles qu'elles seraient héroïsées. Non. Ce sont des vies ordinaires comme les nôtres le sont, et tout à coup l'événement les fait rentrer dans une certaine histoire que nous essayons de construire.
C'est pas absurde de passer quelques mesures du partisan du regretté Leonard Cohen.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me.
Tous renseignements sur l'opération Chaque Témoin Compte sur le site de l'IHTP, tout à fait rénové, et puis sur notre site à l'ancienne de la Marche de l'Histoire sur France Inter. Cette émission a été réalisée par Valérie Aestaraï avec à la technique Stéphane Poitvin.